fil de l'histoire, Patrick Liégibel. La bataille Rimbaud en quête de la chasse spirituelle de Bertrand Leclerc. Réalisation Christine Bernard-Sugy.
Allô ? Allô, mademoiselle ? Oui, je voudrais Odéon 2347, s'il vous plaît. Ah, Akaka, enfin. C'est Nicolas. Vous avez vu combat ? Eh bien, j'ai le déplorable plaisir de vous annoncer que notre prose fait la une. Simplement comme ça, ils annoncent la parution demain au Mercure de France de la chasse spirituelle d'Arthur Rimbaud, avec, tenez-vous bien, avec une préface de Pascal Piat. Non, sans expliquer plus avant la découverte de cet inédit miraculeux, non. Eh, hey, c'est le nôtre, aucun doute. Oui, oui, des citations, plusieurs. Ah, ça, dans le panneau. Non, mais vous vous rendez compte? Aucune nouvelle de Melchior ou de Saillé depuis des semaines, et voilà notre pastiche à la une de combat. Ouais, et tous convaincus de l'authenticité du texte. Incroyable, comme vous dites. Ça, vous pouvez venir dans 5 minutes au bistrot d'en bas.
On l'a retrouvé. Quoi ? Non pas l'éternité, comme dans le célèbre poème d'Arthur Rimbaud, où la mer est mêlée au soleil, mais le chef-d'œuvre inconnu et mythique que cherchent tous les rimbaldiens depuis plusieurs décennies, la chasse spirituelle. Tout auréolé depuis la libération du prestige d'Albert Camus, le plus célèbre de ses éditorialistes, le quotidien Combat l'annonce par voie d'affiche le 19 mai 1949. Combat présente aujourd'hui un document littéraire exceptionnel que l'on croyait perdu depuis 1872.
Combat, s'il vous plaît.
Moi de même. Bonjour, cher ami.
Bonjour.
Nous sommes quelques-uns à nous précipiter aujourd'hui, il me semble.
La chasse spirituelle, quelle émotion, non ?
Étiez-vous au courant ?
Pas le moins du monde.
Un joli coup qu'ils font là.
Ça ! Toute l'œuvre est-elle à reconsidérer ? Savez-vous quand vous recevrez les premiers volumes, vous autres libraires ?
Dès demain. Je viens d'appeler le Mercure qui m'a promis quelques volumes de l'édition Grand Papier. Vous connaissiez donc l'existence de ce manuscrit ?
Certes. D'aucuns prétendent que la chasse spirituelle serait passée en salle des ventes dans les années 20, mais aucune preuve. On sait seulement que Verlaine en a parlé dans une lettre à son beau-frère en 1872. Honnêtement, je ne croyais plus qu'on le verrait jamais. Soit qu'il ait été détruit, soit qu'il n'ait jamais existé.
Jamais existé.
On peut se demander si Verlaine n'a pas parlé d'un manuscrit uniquement pour justifier par avance qu'on trouve chez sa femme les lettres compromettantes de Rimbaud. Bon, excusez-moi, cher ami, je rentre. Quelque peu pressé d'en savoir davantage. Et à demain. Si vous voulez bien me mettre un exemplaire de côté...
Pendant que le tout Paris littéraire se précipite dans les kiosques et que les télégrammes de félicitations pleuvent sur la rédaction de Combat, deux jeunes gens tombent littéralement des nues où les ont transportés leurs travaux d'écriture. Nicolas Bataille, un tout jeune comédien de 23 ans, qui est aussi le futur metteur en scène de l'œuvre d'Eugène Ionesco au théâtre de la Huchette à Paris, hésite entre panique et jubilation. Avec sa complice, Akakia Viala, il voulait jouer un bon tour aux quelques journalistes qui avaient dénigré leur adaptation théâtrale d'Une saison en enfer. En guise de plaisanterie, les voilà malgré eux précipités au cœur d'une étrange manipulation éditoriale et totalement dépassés par les événements.
Montrez-moi. Selon toute apparence, la composition de la chasse spirituelle eut lieu au cours du premier semestre de l'année 72. À cet égard, aucun doute ne peut subsister. La chasse spirituelle commande et préfigure tout ce qui, dans une saison en enfer, n'affecte pas la Vierge folle. Oh, ils n'y vont pas de main morte. Ce serait Pascal Piat qui écrirait ça.
Ils vont jusqu'à comparer notre texte à une saison en enfer. Dans la chasse, des chansons niaises groupées des rondes dans la tête. Et dans une saison, j'aimais les peintures idiotes, la littérature démodée, refrain niais, rythme naïf. Et écoutez ça, le pire, la phrase sur laquelle la chasse prend fin. Certes, il est d'autres rives, ne manquera pas de susciter de nouvelles exégèses.
Eh bien, vous avez du talent, Nicolas.
Nous avons du talent. Mais voyez comme la division du manuscrit en 5 parties leur semble une preuve de son authenticité. Notre canulaire est en train de nous échapper.
5 parties, mais c'est pourtant le béaba pour qui veut pasticher Rimbaud.
On a peut-être fait une bêtise.
Pia, mais comment est-ce qu'un type aussi brillant peut sérieusement affirmer que la proximité du texte avec une saison en enfer est gage de son authenticité? Mais évidemment que les images sont proches, c'est là que nous sommes allés les chercher.
Non, tout de même, Akakia, vous vous rendez compte qu'on n'en a pas entendu parler depuis 3 semaines que Melchior a emporté notre copie? Et v'lan, direct dans combat, au Mercure. Ah, ces gens sont incroyables, non?
Nous voilà à faussaire, en somme.
Qu'est-ce qu'on fait?
Il faut sortir du bois, tout de suite. Appelons Paul Hartmann au Mercure pour lui dire de ne pas le publier, que c'est juste une pochade.
Mais c'est trop tard. Le volume est déjà imprimé. Il sera en librairie dès demain. Et puis personne ne va même nous croire. Ils sont persuadés que c'est la chasse spirituelle. Vous le voyez dire, la bouche en cœur, que c'est nous qui avons écrit ce chef-d'œuvre. Hartmann va nous traiter de mythomane, vous pensez?
De fait, dénoncer l'authenticité du texte, c'est mettre en doute, du même geste, l'érudition incontestée de Pascal Pia et l'autorité de la critique institutionnelle, dont la page littéraire de combat, dirigée par Maurice Nadeau, est l'un des hauts lieux en ces années d'après-guerre. Si plusieurs écrivains diront plus tard avoir été pris de doute à la lecture du journal, personne n'ose réagir publiquement, à une exception près. André Breton, qui a manqué s'étrangler en lisant les extraits reproduits dans le quotidien, décide de l'écrire aussitôt avec son flamboiement coutumier. Sur la foi des seules citations publiées dans Combat, l'auteur de Nadja et de L'amour fou envoie, dès le 19 mai, une lettre ouverte à la rédaction de Combat.
Lettre à Combat, Paris, le 19 mai 1949. Messieurs, il n'est pas un rimbaldien véritable dont l'émotion à découvrir ce matin la page littéraire de Combat n'ait dû faire place presque aussitôt à l'inquiétude pour se muer peu après en indignation. Ouais. Je déplore une fois de plus pour ma part que le responsable de cette page puisse tomber dans des pièges aussi grossiers. Il faut en effet n'avoir jamais rien entendu à Rimbaud pour oser soutenir que les quelques phrases citées sont de lui.
Rentré 3 ans plus tôt de son exil américain, Breton voit peut-être là une occasion de ranimer la flamme surréaliste auprès de jeunes gens attirés comme papillons par l'existentialisme sartrien. N'empêche, témoignant d'une confiance absolue dans sa lecture, Breton vole, avec l'arrogance d'un chevalier blanc, au secours de l'intégrité d'une œuvre qu'il adule entre toutes. C'est qu'il ne voit dans les extraits attribués à Rimbaud par Combat qu'une détestable atteinte à la poésie tout entière. Une atteinte qu'on ne saurait laisser sans réponse. Et dès le lendemain matin, comme il devait le raconter dans son pamphlet « Flagrant délit », il vient constater le délit flagrant d'imposture et de trucage, dira-t-il, chez le libraire Henri Matarasso, rue de Seine.
J'ai lu votre lettre à Combat. Vous êtes bien sûr de vous, monsieur Breton.
Mais cela saute aux yeux. À chaque ligne, une impossibilité. Enfin, voyez-vous-même, ici, la tête comme un coquillage géant. La tête comme un coquillage géant.
C'est d'un très jeune poète encore.
Le Rimbaud de 1872 est au fait de son génie. Il ne peut pas connaître d'aussi grave et continuelle défaillance. Non, c'est ignoble. Bon, pour s'en tenir sur le plan des épithètes et des images, à qui fera-t-on croire que Rimbaud succombe à des associations aussi vulgaires que chat-griffus, mareillés hypocrites, mammouth furieux? Non, voyez-vous-même. Allons, monsieur Matarasso. Pas à moi, en tout cas.
Excusez-moi de me mêler de votre conversation, monsieur Breton, mais n'écartez-vous pas un peu vite la préface de Pascal Pia, qui ne me semble pas sans autorité, lui aussi, sur le sujet.
Cette fois, Pascal Pia exagère.
Mais si tel est ce que vous sous-entendez, pourquoi? Quel serait l'intérêt de publier un faux? Vous pensez donc que Pia en serait l'auteur?
Mais non, Pia n'en est pas l'auteur. Pia lui-même aurait évité cette odieuse vulgarité de ton. Enfin, si le faux était de lui, il serait presque sûrement meilleur. Non, c'est impossible.
Tout de même, avec tout mon respect, monsieur Breton, comment croire que la rédaction de Combat et qu'une maison aussi prestigieuse que le Mercure soit si sûre d'eux-mêmes s'ils n'avaient quelque preuve de ce qu'ils avancent?
Mais ils sont mystifiés. Ce qui prouve uniquement ceci. Ces journalistes sont incapables de ressentir l'aura d'une œuvre. Il est heureusement des yeux pour qui cette aura ne se dissipe jamais, mais ils sont rares. N'en déplaise aux analystes forcenés, ceux qui sont doués de ces yeux savent que toute spéculation autour d'une œuvre est plus ou moins stérile, du moment qu'elle ne nous livre rien de l'essentiel. À savoir le secret de la puissance d'attraction que cette œuvre exerce.
Vous déniez donc tout pouvoir d'élucidation à la critique savante.
La vertu d'une œuvre ne se manifeste que très secondairement dans les plus ou moins savantes exégèses auxquelles elle donne lieu. Au départ, il ne s'agit pas de comprendre, mais bien d'aimer.
Vrai, faux, Rimbaud, la presse se déchaîne, des clans se forment. On assiste avec étonnement en cette année 49 à l'alliance objective du Figaro et des Lettres françaises, dirigée par Louis Aragon, qui s'oppose à Combat, pour des raisons que certains soupçonnent de n'être pas seulement littéraires. Mis à mal par la formidable leçon de critique de Breton, les tenants de l'authenticité campent pourtant sur leur position, refusant mordicus de croire Nicolas Bataille et Acacia Viala lorsque ces derniers affirment dans le Figaro avoir écrit leur pastiche dans le seul but de confondre l'ignorance de deux ou trois critiques. À qui veut bien les entendre, ils racontent en effet que tout a commencé quelques mois plus tôt, lorsque leur adaptation théâtrale d'Une saison en enfer a reçu un accueil fort mitigé.
Et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Que parlais-je demain, ami ? Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles amours mensongères et frapper de honte ces couples menteurs. J'ai vu l'enfer des femmes là-bas, et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps.
Si leur mise en scène leur a valu le prix de l'avant-garde des jeunes compagnies, les spécialistes de l'œuvre de Rimbaud, ou prétendu tel, ont émis bien des réserves quand ils n'ont pas ouvertement ricané. Maurice Saillet, critique réputé au journal Combat, spécialiste des œuvres de Reverdy et de Jarry, grand lecteur autoproclamé de Rimbaud, n'a pas été le dernier à faire preuve d'une morgue certaine.
Ah non mais, ils sont insupportables! À croire que Rimbaud leur appartient! Je vous assure, Louise, ils sont murés dans leur certitude.
Est-ce si grave? Vous avez fait un beau travail. Quelle importance si quelques grincheux...
Mais ce sont des gens qui comptent, quoi qu'on en veuille. Tous les habitués de la librairie d'Adrienne Monnier...
Résidus d'une autre époque.
Ça compte. Vous ne mesurez pas à quel point, Nicolas. Pour votre avenir aussi. Vous savez ce que Maurice Saillet a le front de dire partout, Louise? Que jouer la saison au théâtre, c'est attenter à l'esprit du poète.
Et il va jusqu'à affirmer que s'il disposait d'un inédit de Rimbaud, il se garderait de nous le donner de peur que nous le massacrions.
Tous ces gens ne se prennent vraiment pas pour de la crotte.
Ouais. À ce propos, Nicolas, j'ai bien envie de lui en faire voir à ce cher Saillet.
Comment donc ?
Si nous lui concoctions un bon petit pastiche, puisqu'il nous parle d'inédit. Nous verrions s'il est capable de distinguer Rimbaud d'une imitation.
Vous croyez qu'il se laissera prendre ?
C'est à nous d'y travailler.
Oh, je ne me vois pas...
Embarqué dans une noce avec Jésus-Christ pour beau-père, c'est ça ? Vous voyez, on a tellement répété la saison qu'il suffit d'un début de phrase pour partir au quart de tour.
Un pastiche, à la manière de Paul Rebout ?
Et surtout pas. Là est la différence. Le pastiche est une sorte de caricature. Nous, nous allons faire un vrai faux Rimbaud, c'est-à-dire un texte sérieux et travaillé qui ne doit pas prêter à sourire.
Facile à dire.
À dire vrai, j'ai déjà trouvé ce qu'il nous faut. Dans Rimbaud le voyant, de Roland de Renéville, regardez. J'ai coché la page. La poursuite des réalités pures demande une abnégation et un amour que seuls peuvent concevoir ceux qui les possèdent. Sans doute, Rimbaud fixa-t-il tous ses détours dans les poèmes de la chasse spirituelle, manuscrit que Verlaine laissa perdre.
Et alors ?
Que Verlaine laissa perdre ! C'est le fameux manuscrit qu'ils cherchent tous !
Et qui aurait vraiment existé ?
Verlaine mentionne ce manuscrit dans une lettre à son beau-frère, peu après avoir fui le domicile conjugal où il l'aurait oublié. Il lui demande de le lui renvoyer. Beaucoup y croient. D'autres pensent que Verlaine n'a parlé d'un manuscrit que pour justifier l'existence de lettres d'autant plus compromettantes qu'il les a laissées chez sa femme. Parler d'un manuscrit pourrait lui permettre, en cas de dénonciation, de décréter que les lettres sont fictives, qu'elles appartiennent à une œuvre littéraire, un peu comme a fait Oscar Wilde d'ailleurs, quelques années plus tard.
Et que proposez-vous au juste, Akakia ?
Eh bien, nous allons l'inventer. Essayez d'imaginer son contenu. Nous avons même le titre, Nicolas. Alors au travail. Nous allons écrire la chasse spirituelle. Moi, je planche sur la construction philosophique. Vous, qui avez encore la saison tout entière dans la tête, vous inventez les images. Et Louise nous servira d'auditeur cobaye.
Trois semaines durant, Nicolas Bataille et Akakia Viala inventent d'arrache-pied cette chasse spirituelle que tout le monde cherche, sans mesurer ce que le manuscrit mythique représente aux yeux des Rimbaldiens. La pièce manquante qui permettrait enfin de comprendre le déploiement de l'œuvre dans le temps, autant dire une pierre de Rosette. Les premières lectures ont lieu dans le plus grand secret, chez les Autant-Lara.
J'ai pleuré jadis sur de vains attachements. Je ne crois pas à la famille, au devoir, au bonheur garanti par l'estime. Soupe rance, sucrerie fade et angélique parfum des benoîtes armoires.
Après les effrois extatiques,
rejetons
je vois
franchement
humeurs,
les draps blancs, l'escale rutilante de quelques fièvres, les plaies adorables, les tisanes mortuaires des vieilles balbutiantes, la miséricorde des injuriés de jadis. Ni regret, ni démence, désormais. La mort sanctifiée à leur manière. Ce n'était pas la mienne. Certes, il est d'autres rives.
Certes, il est d'autres rives. Ah oh, oh oui, c'est bien.
Et cela vous semble crédible en l'état ?
Écoutez, je ne suis pas spécialiste, mais on s'y laisserait prendre, oui, je crois. Adieu, catéchisme, amour vétuste. J'ai tranché ma main droite. Ça sonne, Nicolas.
Vous y croyez ?
Ben, je pourrais, en tout cas. Vous n'allez tout de même pas jouer ça en le présentant comme un texte de Rimbaud ?
Non. On veut piéger Sayet et tous ses critiques aux dents trop sensibles.
Mais comment ? Encore faudrait-il que vous soyez capable d'imiter la graphie d'un manuscrit original.
Inutile. Nous allons faire beaucoup plus simple. Vous connaissez Melchior ?
Oui.
C'est un ami de Sayet. Nous lui dirons qu'un collectionneur enthousiasmé par notre mise en scène nous a permis de consulter le manuscrit de la chasse spirituelle qu'il conserve sous verre. Que nous l'avons recopié, malgré quelques difficultés. Et d'ailleurs, nous laisserons sur la copie des blancs, des mentions illisibles ou raturées, vous voyez ?
Ah oui !
Et en toute modestie, mais sans cacher ma fierté, puisque ce collectionneur s'est enthousiasmé pour notre saison, je demande au grand lecteur de Rimbaud qu'il est de me dire ce qu'il en pense, s'il veut bien le lire.
Et s'il ne marche pas ?
Ce sera raté, rien de grave.
Mais à mon avis, vous les connaissez, hein, ils voudront en savoir plus, connaître le collectionneur, depuis le temps qu'il cherche.
On va s'amuser.
Tout fonctionne comme prévu, mais au départ seulement. Sous le sceau du plus grand secret, le manuscrit est mis en circulation. Et puis, plus rien. Les jours, les semaines passent, aucune nouvelle de Melchior, de Sayet, les jeunes gens pensent avoir perdu la partie, vivent le silence comme l'expression d'un mépris supplémentaire. Jusqu'au coup de théâtre du 19 mai 1949, lorsque paraît l'affiche de combat annonçant la parution de la mythique chasse spirituelle. Les chasseurs se sentent aussitôt devenir les chassés potentiels d'une battue qui risque de les dépasser. Craignant d'être dénoncés comme de vulgaires faussaires, ils contactent sans succès Combat et le Mercure, puis le Figaro, où ils sont enfin entendus.
Alors, quelle réaction à votre déclaration ?
Ils prétendent ne pas nous croire.
Mais enfin, ça y est, c'est bien que le texte lui est parvenu par votre entremise.
Ils n'en veulent rien savoir. Aucun argument de fond et la mise en cause de notre honnêteté. Mademoiselle Akakia et Monsieur Bataille n'ont fourni aucune preuve de leur travail de pastiche. Voilà qu'ils nous demandent de prouver que nous sommes les auteurs. Comment le prouver? En donnant des brouillons que nous aurions pu écrire après? La violence déchaînée par cette affaire rend tout le monde fou. Avez-vous vu les articles assassins des lettres françaises, du Figaro ce matin encore?
Oui. C'est à se demander s'il n'y a pas là-dessous d'autres enjeux. Une alliance objective contre combat qui irait du Figaro à la presse communiste?
C'est désormais ce qu'ils prétendent. Il est peut-être vrai que tous en veulent à combat d'exister, que c'est là leur véritable motivation pour enfoncer le clou à longueur de page. Peut-être. N'empêche que le Figaro a raison. Nous sommes bien placés pour le savoir.
Et Breton, il vous met clairement hors de cause dans sa fureur, puisqu'il dit comprendre la farce que vous avez voulu faire, vous, les auteurs avoués du pastiche. Vous n'êtes pas responsable de l'utilisation scandaleuse qui a été faite de votre faux. Pourquoi ne pas le contacter?
Étant donné la vulgarité dont il crédite notre texte, pardon, mais autant l'avouer, j'ai lu ses interventions le rouge au front. Sa lettre au Figaro encore aujourd'hui.
Ça le rend de plus en plus agressif, Breton, toute cette histoire.
Faute de voir apparaître un manuscrit original qui justifierait leur publication, tous ces journalistes sont poussés dans leur dernier retranchement.
Aucun collectionneur ne se manifeste, et de jour en jour, les tenants de l'authenticité rendent les armes face aux arguments de Breton. Le Mercure de France se décide à retirer le livre de la vente. Il disparaîtra bientôt, et à tout jamais, du catalogue de la vénérable maison, qui n'en garde aucune trace. Enfin consulté par l'éditeur, Nicolas Bataille et Akakia Viala confirment qu'ils ne réclameront aucun droit, mais demandent que ces derniers soient versés au musée Rimbaud de Charleville. Breton ne s'en satisfait pas. Il exige aussitôt que le Mercure ne se déleste pas seulement des droits d'auteur, mais de l'intégralité des bénéfices réalisés avec les éditions de luxe. Quelques jours avant l'apparition de Flagrant délit, le pamphlet que Breton a écrit à chaud et à vif, non sans flirter avec l'insulte à l'égard des journalistes de combat, c'est dans le Figaro que se dénoue l'affaire du faux Rimbaud.
Alors, cher ami, qu'en dites-vous? Voilà enfin la bataille terminée.
Voilà plusieurs jours qu'ils battent la campagne, en effet.
Ah, vous n'avez donc pas encore vu l'entrefilet du Figaro?
Aujourd'hui?
Mais oui, je vous l'amène, à peine sorti de l'imprimerie. Lisez vous-même.
Alors, l'affaire de la chasse spirituelle dont le Figaro et le Figaro littéraire ont largement entretenu leurs lecteurs vient de trouver son épilogue. Elle se dénoue de la façon la plus heureuse puisque nous apprenons que le Mercure de France, éditeur du fameux pastiche, abandonne le bénéfice de cette édition au musée Rimbaud. D'après la lettre de M. Hartmann au conservateur du musée de Charleville, il s'agirait d'une somme assez considérable. Eh bien, voilà de fait qui sonne comme un épilogue.
Il aura fallu un mois et demi. Enfin, voilà qui est fait, cependant.
Reste à comprendre. Comment Pascal Piat a-t-il pu se tromper à ce point?
Mais allons bon, mais Piat ne s'est pas trompé, mais pas une seconde. Il ne le reconnaîtra jamais. Ce serait abandonner en race campagne ces malheureux complices de combat qui, eux, sont restés aveugles.
À l'exception d'André Breton, la plupart de ses protagonistes avaient les meilleures raisons du monde de vouloir enterrer aussi vite cette déplorable affaire de la chasse spirituelle. Nicolas Bataille, lui-même, arroseur arrosé par la lecture incisive de Breton, a d'ailleurs préféré ne pas s'attarder sur l'affaire lorsqu'il publia ses mémoires peu avant sa mort au début des années 2000. Alors que le théâtre de la Huchette célébrait sa mise en scène de la cantatrice chauve à l'affiche depuis 50 ans sans discontinuer. Encore aujourd'hui, qui s'y intéresse en est très vite réduit aux hypothèses quant au rôle de Pascal Piat, adoptant ou non les sous-entendus de Breton.
Puisque vous parliez de la caution apportée par Pascal Piat, et si je peux me permettre, messieurs, j'étais mardi à la librairie d'Adrienne Monnier et il y circulait une hypothèse intéressante.
Laquelle ?
Eh bien, la logique de l'affaire pourrait bien se trouver écrite noir sur blanc dans l'introduction de Piat. Il écrivait ceci à peu près, que tout le monde croyait la chasse spirituelle à jamais perdue, sans doute détruite, et que c'était un tort puisqu'il en existait donc encore un manuscrit et peut-être deux, disait-il. Peut-être deux. Tout est là.
Et je ne vous suis pas, cher ami.
Voyons. Pia précisait que, pour des motifs qui leur appartiennent, les collectionneurs, j'insiste sur le pluriel, les collectionneurs de ces feuillets d'une valeur et d'un intérêt exceptionnels ne se sont pas fait connaître. Il poursuit ainsi, et pour le coup, la citation est exacte, « Puisse la publication qu'une série de hasards nous permet de faire aujourd'hui les inciter à se montrer moins jaloux du secret de leur richesse rimbaldienne. »
Vous voulez dire que...
C'est du moins ce qui se murmurait là-bas l'autre jour. Pia pensait qu'à publier comme authentique ce qu'il savait pertinemment être un faux, il obligerait le collectionneur à se dévoiler. Encore fallait-il trouver un éditeur et des journalistes pour le croire.
Soixante ans plus tard, alors que la chasse spirituelle n'a décidément jamais réapparu, la bataille Rimbaud interpelle aussi pour l'importance considérable que lui ont accordé les journaux de l'époque. De fait, on imagine mal l'opinion s'enflammer aujourd'hui à propos du manuscrit inédit d'un poète. Mais l'enseignement de l'affaire est aussi celui-là. La légende de Rimbaud le voyant n'est décidément pas celle d'un poète comme les autres. Voici quelques mois, n'a-t-on pas vu l'Internet se déchirer en polémiques bruyantes à propos d'une trouvaille concernant Rimbaud ? Il ne s'agissait pas d'un inédit, pourtant, mais d'une simple photo où certains reconnaissent le poète devenu marchand d'armes à Aden. Vraie, fausse photo de légende ? La polémique court toujours, et le poète aussi, se mêle devant. L'insaisissable mais inimitable aura de son œuvre n'a pas fini d'illuminer nos existences. Au fil de l'histoire, Patrick Liégibel, la bataille Rimbaud en quête de la chasse spirituelle de Bertrand Leclerc, avec Nicolas Bataille, Stéphane Varupen, Akakia Viala, Estelle Meyer, André Breton, Alain Rimoux, Henri Matarasso, Philippe Touzet, Louise, Frédéric Cantrel, la cliente, Christelle Wurmser, bruitage Bertrand Amiel, présentation Stéphanie Duncan, équipe technique Jean-Michel Bernot et Marie Lepeintre, assistante Delphine Lemaire, réalisation Christine Bernard-Sugy, une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur franceinter.fr.